Ta rencontre spirituelle aujourd'hui serait question d'un Italien qui est né dans le sud de l'Italie et qui, très jeune, a eu le désir de partir comme missionnaire. Ça existait souvent autrefois et ça existe encore aujourd'hui. Beaucoup de jeunes aiment non pas partir comme missionnaire membre d'une communauté religieuse, mais ils s'attachent à une communauté religieuse et partent pour quelques années, garçons et filles. Il y en a beaucoup plus qu'on pense, hein, qui partent comme ça ici et d'ailleurs. Mais lui, c'était pour toute sa vie. Il voulait tout donner. Alberico, ou Alberic, si vous voulez, Crescitelli, c'est Cresci, Telli, T-E-2-L-I, en un seul mot. Il a été tué par les boxers. Ce sont des Chinois xénophobes, ceux-là, c'est une minorité de Chinois, qui ont été malheureusement appuyés par le gouvernement. Un moment difficile avec l'Occident, avec les Blancs, puis avec le christianisme aussi, et c'était un carnage terrible en 1900. Il est donc mort dans ce carnage effrayant. Et je profite de l'occasion pour dédier cette émission au curé de la paroisse chinoise du Saint-Esprit, ici à Montréal, dans ce qu'on appelle le quartier chinois, le Chinatown, le père Thomas Tu, qui a célébré, il n'y a pas longtemps, le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Le père Thomas Tu, T-O-U, qui est très gentil, très aimable au téléphone. Et il me disait que des membres de sa famille ont été exécutés dans ce carnage de 1900, opéré par les boxers. Alberico Crescitelli est né le 30 juin 1863. Il est mort en 1900. Comme vous voyez, il n'a pas vécu bien longtemps. Il est né à Altavilla Irpina. C'est une ville d'environ 6000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, il y a bien 70 000 habitants à cet endroit, dans la province d'Avellino, dans le diocèse de Bénévent. Il est fils de Benjamin Crescitelli, un simple pharmacien, et sa mère s'appelle Digna Bruno. Il est le quatrième d'une famille de 11 enfants. Et Alberico passe les premières années de sa jeunesse à travailler dans les champs. Vers l'âge, c'est dans la région de Naples, si vous voulez, hein, Bénévent, tout ça, bon. Vers l'âge de 15 ans, sa vocation commence à se dessiner. Et c'est une vocation de missionnaire. Hein. En 1880, donc vers l'âge de 17 ans, quand son frère aîné est appelé au service militaire, lui, 17 ans, il saisit cette occasion pour dire à sa mère qu'il désire devenir prêtre. Et tout de suite, sa mère, bien heureuse de tout ça, l'encourage. Et elle le présente à un père passionniste. Il en était un peu question dans l'émission d'hier avec Saint Paul de la Croix. Et puis ensuite, elle le présente au père Giuseppe Cirelli, qui est l'oncle de son mari. Son mari, Benjamin Beniamino Crescitelli, le père d'Alberico. Mais le jeune Alberico déclare que son désir est de devenir prêtre séculier et missionnaire, un prêtre ordinaire donc, mais à l'étranger, ailleurs, au loin, et il ne veut pas appartenir à un ordre religieux. Quelques mois plus tard, en octobre 1880, toujours la même année où il a 17 ans, il entre au séminaire pontifical des apôtres Pierre et Paul pour les missions étrangères, qui a été fondé 6 ans auparavant, en 1874. Et au moment de son admission, le séminaire a pour ligne de conduite de fournir des séminaires aux évêques qui en font la demande. Et alors, en 1883, 3 ans après son entrée, donc, Comme Alberico Crescitelli suit ses études, il y a survient le vicaire apostolique de la région du Shaanxi, en Chine, dans le nord de la Chine. Shaanxi, S-H-E-N-S-I. Et puis, ce vicaire apostolique, cet homme, donc, qui assiste, on peut le pape, si vous voulez, dans le monde, et qui est presque un évêque, au fond, un évêque, il demande à la congrégation de la propagation de la foi, que l'on appelait à l'époque des propaganda fide. C'est pour propager la foi dans le monde, pour étendre l'Église à travers le monde, pour que le Christ soit connu et aimé partout à la surface de la terre. La congrégation, ou si vous voulez, le ministère, comme on dirait dans un gouvernement, de la propagation de la foi. Donc, ce vicaire apostolique demande à ce ministère que les jeunes gens formés dans ce séminaire là, dont je vous ai parlé, des apôtres Pierre et Paul, soient dorénavant affectés au service de sa région, la région de Shaanxi, en Chine. En 1885, deux ans plus tard, les premiers prêtres de cette institution partent donc pour la Chine. Ils partent pour la Chine. Pendant ses études, il a eu, Alberico, la douleur de perdre son père et une sœur qui ont été tués dans un tremblement de terre à Casamicciola. Alberico Crescitelli est ordonné diacre le 9 avril 1887. Il est enfin ordonné prêtre deux mois plus tard, le 4 juin. Et en juillet, il va passer ses vacances en famille. Mais catastrophe. Le 12 septembre, il y a une violente épidémie de choléra qui fait son apparition dans la province d'Avellino, d'où il vient. Et les gens, pris de panique, fuient les villes, se réfugient dans les campagnes. Alors c'est avec difficulté qu'on arrive à constituer un comité de vigilance à Altavilla Irpina, son village natal. Sa mère, qui sait bien que son fils doit bientôt s'embarquer pour la Chine et qui en est fière, lui demande de quitter Altavilla Arpina. Elle est en larmes, mais elle est joyeuse. Il refuse, il dit, « Maintenant, non, je ne puis m'en aller, c'est impossible. » Alors il obtient de ses supérieurs l'autorisation de demeurer sur place. Il se met là à la disposition du comité, puis il visite les malades. Et il assiste les mourants, si bien que, comme il est resté pour soigner le malade, et puis il a manifesté une constance extraordinaire et un dévouement, ça lui vaut la reconnaissance de tout le monde, et même une médaille du gouvernement italien. Lorsque l'épidémie de choléra prend fin, il quitte sa ville natale, le 31 octobre, et se rend aussitôt à Rome. Il a hâte de partir en mission. Il a hâte de savoir où on va l'envoyer, puis il arrive pour apprendre que sa destination définitive est le sud du Shaanxi, en Chine, dont je vous ai parlé, et qu'il partira avec un de ses camarades. Alors les deux missionnaires sont heureusement reçus par le pape Léon XIII lui-même, le 4 mars 1888. Il a 24 ans. Et tous deux s'embarquent à Marseille. Vous savez où est Marseille? Dans le sud de la France, évidemment. Ça donne sur la Méditerranée. Ils s'embarquent le 8 avril, puis ils arrivent à Shanghai un mois plus tard. C'est rapide, le 13 mai, un mois et cinq jours plus tard. Et après un voyage sur le fleuve là de 81 jours, je dis bien 81 jours sur ce fleuve en Chine, ils parviennent à destination le 18 août seulement. Alberico Crescitelli vient d'avoir 25 ans. Prend du courage à cet âge-là. Hein? Il est donc rendu au Shaanxi. Le Shaanxi, c'est une région qui a été évangélisée par les Jésuites dès le 17e siècle. Et il y a le souvenir d'un d'entre eux là-bas, le père Étienne Lefèvre. Faudrait bien que je vous en parle du père Étienne Lefèvre, qui demeure longtemps entouré d'une auréole de légende dans toute cette région et en Chine. D'ailleurs, deux siècles après sa mort est survenue en 1658, On raconte encore ses exploits prodigieux, puis en 1873, d'ailleurs, le vicaire apostolique du Chensi, là, qui a demandé les missionnaires, écrit que sa tombe est encore un lieu de pèlerinage fréquenté par les chrétiens, et même par les non-chrétiens. C'est assez curieux, hein? En 1885, d'ailleurs, la partie sud du Chensi est constituée en un vicariat apostolique et confiée auprès du séminaire des apôtres Pierre et Paul, où Albéric a fait ses études, et ce nouveau diocèse est assez vaste. Une superficie de 80 000 km carrés, puis il y a une population de 5 millions de Chinois, dont seulement quelques 8 000 chrétiens. 8 000 sur 5 millions, c'est pas beaucoup, hein? Ces chrétiens-là sont dispersés dans 52 collectivités. C'est immense. Les villages s'étendent principalement le long du fleuve Han. Il y a 2 missionnaires européens, 3 prêtres chinois qui visitent chaque année les 32 églises et les 3 oratoires. On ne fait pas souvent la messe pour les pauvres gens, une fois par année. Ils administrent les sacrements. Puis ils essaient d'augmenter le nombre des catéchumènes, c'est-à-dire de ceux qui se préparent à recevoir le baptême puis à devenir catholiques, des catéchumènes. Les catéchumènes, à son arrivée, ne sont qu'une centaine environ, c'est pas beaucoup. Alors, peu après son arrivée, Alberico Crescitelli, tout jeune prêtre de 25 ans, est appelé à Hangchung, siège du vicariat apostolique, pour y étudier le chinois. Pas facile, ça. Après une période de travail assidu de 4 mois, son supérieur l'amène dans ses visites pastorales pour accélérer son entraînement et lui faire comprendre ce qu'il aura à faire. Alors, il écrit à son frère, le 16 décembre 1839, une lettre assez sympathique. Il dit, « Tu peux t'imaginer qu'avec cette sacrée langue chinoise, on perd un peu la tête, parce qu'elle n'a aucune ressemblance avec nos langues comme l'italien, soit à cause des nombreux sens des mots, soit à cause de la prononciation, et plus encore pour les tons. Il dit, rends-toi compte qu'une parole change de sens si elle est prononcée un tiers de ton plus haut ou un tiers de ton plus bas. Et maintenant, grâce à Dieu, j'en sais assez, au moins pour le moment. Et puis, je peux faire de petites prédications par moi-même, et puis, avec le temps, on apprend, insensiblement. Lorsqu'il commence à circuler dans les villages, dont quelques-uns sont difficilement accessibles, mais il se rend compte des difficultés, hein, c'est un milieu difficile. En date du 7 juin 1890, il écrit à la Congrégation des Propaganda Fide, disons, je le répète, le ministère des Missions au Vatican à Rome, là. Hélas, le peuple chinois n'est pas encore disposé à embrasser le christianisme comme on pourrait le désirer, et les conversions sont très difficiles. Lorsque je recommande aux chrétiens de s'évertuer à exhorter les leurs afin qu'ils se fassent chrétiens, tous me répondent, « Mais mon père, si Dieu ne leur ouvre pas le cœur, cela n'est pas possible, tout est inutile. » On pourrait se dire ça, la même chose ici, pour essayer de convertir nos concitoyens qui ont quitté l'Église ou qui ne connaissent pas notre foi chrétienne. Mon père, si Dieu ne leur ouvre pas le cœur, cela n'est pas possible, tout est inutile. Alors, Alberico continue sa lettre à la propagande fidèle, hein, au Vatican. Il me semble que ceci dépend de l'indifférence extrême qui règne et du fait que l'on ne tient aucun compte des biens spirituels. Toutefois, en parcourant notre chemin actuel, s'il ne semble pas que le but de convertir la Chine puisse être rapidement atteint, il est vrai au moins que le nombre des chrétiens doit progresser peu à peu, et nous pouvons être satisfaits des résultats actuellement obtenus dans les conversions des Chinois. Mais les missionnaires sont ici presque tous concentrés dans une partie du vicariat, c'est-à-dire là où sont les chrétiens. Alors il va essayer d'étendre. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons maintenant écouter du luth chinois à 4 cordes, c'est un instrument qui est vieux de 2000 ans, puis de la musique traditionnelle évidemment, et la première œuvre a ce beau titre à la chinoise, « Neige virevoltante sur le verre ». Thank you. L'interprète, qui joue de ce luth chinois, est absolument admirable. C'est Liu Fang. Alors, le document de Alberico, l'abbé Alberico Crescitelli au Vatican, donne une idée de la méthode d'évangélisation qu'on employait alors, il y a plus de 100 ans. Elle explique le nombre restreint des conversions, puisque les missionnaires préfèrent, semble-t-il, travailler dans les milieux déjà chrétiens plutôt que pénétrer dans les régions qui ne sont pas encore évangélisées. Ils restent presque dans leur sacristie, quoi. Pour ça qu'il faut sortir et aller vers les gens, en se disant qu'il y a encore quelque chose de chrétien au fond de leur cœur. Et on le voit surgir à l'occasion. On a vu Guy Fournier parler devant le service des communications sociales et donner une conférence sur ce qu'il attend de cette Église. Il serait prêt à y retourner si l'Église était plus intérieure, plus vivante intérieurement, plus selon ce qu'il attend, puis son exigence, enfin. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui sont plus nombreux qu'on pense chez les gens qui ne pratiquent pas. Alors c'est comme ça que lui, il souhaiterait d'aller chercher ce qu'il y a de chrétiens dans des confucianistes qui sont là, au loin. Et on peut imaginer que le petit nombre des missionnaires en Chine à cette époque-là, puis encore aujourd'hui d'ailleurs, en est la cause. Et les prêtres, si peu nombreux, sont surchargés, comme ici, n'est-ce pas, par leur ministère paroissial. Et c'est pour ça qu'on se limite à répondre aux demandes des groupes qui veulent une instruction religieuse. C'est ce qui se passe à son époque. Par contre, on rencontre très souvent des cas isolés d'hommes et de femmes chinoises là, qui demandent spontanément le baptême après avoir pris contact avec le christianisme dans les orphelinats, les écoles, puis les hôpitaux qui sont tenus par les missionnaires. Mais le manque d'argent, le manque de dons qui proviennent de l'Église en général, est aussi la raison de cet état de choses. Les catholiques ne donnent pas assez aux missions. Pensez que si le jour de la propagation de la foi, je vous l'ai déjà dit, le dimanche de la propagation de la foi, je crois que c'est en octobre, si on donne $1 par année, oui, on donne un huard, comme on dit aujourd'hui, ça veut dire 2 cents par semaine, ça. 2 cents par semaine pour aider les missions au loin. Ça fait pas beaucoup d'argent, évidemment. Si on n'a pas plus d'argent, c'est compréhensible. Mais il me semble que quand on en a plus, ça pourrait donner la valeur au moins $1 par semaine, $50, ça semble un gros don. Pas tellement, on dépense ça dans un restaurant à l'occasion quand on invite 2 personnes. Faut pas tenir compte, écrivait Alberico Crescitelli à son frère, de ces journaux qui veulent faire croire que la propagande de la foi, la propagande fidée à Rome, là, a des millions, à ne pas savoir qu'en faire. Il faut voir les frais qui doivent être soutenus, les voyages, ça coûte cher des voyages des missionnaires, hein, les séminaires qu'il faut établir pour former des prêtres, les nourrir, acheter les livres, etc. Et il ajoute les séminaires, les orphelinats. Coûte cher, ça. Le monde est grand, ajoute-t-il à son frère, mais c'est une fatalité. Vous croyez qu'ici, on n'a pas besoin d'argent et nos chrétiens croient que nous recevons tellement d'argent à ne pas savoir quoi en faire. Ils sont pris entre 2 feux. Hein. Pauvres missionnaires. Ces difficultés matérielles rendent plutôt difficile le travail d'évangélisation. Hein. L'abbé Crescitelli voudrait acquérir des terres pour y installer les chrétiens très pauvres, là. Surtout les gens de la montagne dont la vie est dure et rude et qui sont devenus des catholiques. Il voudrait transférer ses familles au bord du fleuve au milieu des chrétientés déjà existantes. Et ce projet retient surtout son attention lorsqu'il est envoyé dans les régions montagneuses de l'ouest de Hangchung, où vivent des chrétiens, justement, ce sont des anciens réfugiés du Sichuan, venus un siècle auparavant. Ils sont dans la misère. Ils ont l'espoir d'y trouver une vie moins difficile, moins de persécution, parce que la persécution souvent dépend des régions. Ça dépend des seigneurs. En s'établissant là, ils ont répandu le christianisme autour d'eux. L'abbé Alberico Crescitelli trouve environ 500 chrétiens, 500 catholiques, répartis en 6 collectivités. Mais ils n'ont pas de prêtres. Ils décident de faire Un rapport à la propagation de la foi à Rome, le 21 novembre 1895. Écoutez, ça, c'est le cri d'un missionnaire. À raison, nous louons tous les missionnaires d'Afrique qui ont entrepris la fondation de villages chrétiens là-bas. Oh, si on pouvait avoir ici, en Chine, les moyens d'en faire autant. Mais si faute de moyens, on ne peut pas le faire dans la plaine. Il est indispensable de faire quelque chose pour assembler et assister les chrétiens des montagnes. Car on ne peut rien faire, ou très peu, si on ne commence pas par trouver le moyen de les réunir et de leur donner une demeure fixe. Pour qu'ils aient l'Eucharistie chaque dimanche, au moins. Il a d'autant plus l'idée de réaliser ce projet qu'il y a une initiative du même genre qui a réussi en Mongolie, où des collectivités importantes se sont établies sur des terres que les missionnaires ont améliorées puis ont rendues cultivables. Or, Alberico Crescitelli, bien heureux, il a été béatifié, est doué d'un sens aigu de l'observation, ce bienheureux. Il aspire à apporter des innovations puis une méthode missionnaire qu'il sent insuffisante. Mais Don Crescitelli, Don, c'est comme ça qu'on les appelle en Italie, hein, monsieur l'abbé. Mais Don Crescitelli est l'homme des moyens plutôt que des réalisations. Il manque de missionnaires. Le manque de missionnaires, c'est grave. Puis le manque d'argent. Oh. Puis aussi, il veut être disponible aux décisions de ses supérieurs. Il est obéissant. Ça l'amène à suivre les ordres reçus plutôt que de mettre ses projets à exécution. Pas facile d'obéir. Il s'en exprime clairement, d'ailleurs, dans son rapport à la Congrégation de la propagation de la foi du 21 novembre 1895. 5 ans avant sa mort, moins de 5 ans avant sa mort. Il écrit sous l'obéissance des supérieurs, j'espère toujours travailler avec allégresse dans la vigne du Seigneur et faire toujours sa sainte volonté, faire la volonté de Dieu. Il en a beaucoup été question hier, dans toutes les missions. Ses conclusions, après les suggestions qui les précèdent, laissent deviner la position de Don Crescitelli dans une situation comme celle dans laquelle il se trouve, là. Et l'année suivante, il est de nouveau déplacé. On l'envoie auprès des chrétientés du fleuve, parmi lesquelles il a déjà vécu, avec son esprit toujours en éveil. Eh bien, il rédige un long mémoire, le 10 juin 1897, 3 ans avant sa mort, sur la culture du riz dans le Shaanxi du Sud. Il a le sens pratique et il voudrait améliorer la culture du riz, ce qui va beaucoup aider. Les missionnaires, ce ne sont pas simplement des gens qui parlent. Ils font toutes sortes de choses extraordinaires, concrètes. Durant les 11 années de son séjour en Chine, Alberico Crescitelli a l'occasion de visiter toutes les chrétientés du vicariat dont il dépend. Il y a eu des déplacements causés par le manque de personnel. Mais ça a l'avantage pour lui, comme pour les autres prêtres, de leur permettre de se familiariser avec les divers aspects du pays. Mais c'est une épreuve. Ce qui fait dire à l'un des camarades de Crescitelli, un prêtre qui a de l'humour, que les missionnaires du Shaanxi méridional, Shaanxi du Sud, là, c'est dans le nord de la Chine, donc, ont résolu le problème du mouvement perpétuel. Il faut vraiment avoir de l'humour quand on souffre comme ça, se promener, mouvement perpétuel. Les supérieurs du père Crescitelli nous ont laissé de nombreux témoignages sur son existence en Chine, les dangers des routes, ses voyages par des chemins boueux, traversés par des torrents au temps des pluies, puis l'arrivée dans les villages après un cheminement exténuant. Les endroits où il doit dormir, c'est souvent sordide, puisqu'on lui sert de nourriture et parfois tellement pauvre que c'est pas la grande nourriture chinoise, c'est une nourriture sans goût. On connaît aussi son amour pour ses chrétiens puis son attention à chercher ce qui pourrait relever leurs conditions de vie, puis leur vie intérieure. C'est extraordinaire que la vie de cet homme. Tout à l'heure, je vous lirai des témoignages d'un pro-vicaire apostolique, un franciscain, et puis les déclarations de Mgr Antonucci. C'est extraordinaire ce qu'ils ont écrit à son sujet. Nous allons maintenant écouter toujours ce luth chinois à quatre cordes, qui est un instrument vieux de 2000 ans, et l'œuvre a encore un très beau titre, « La mélodie de la maison de bambou ». Le père Caléa, un franciscain, pro-vicaire apostolique, écrit ce qui suit au sujet de ce qui se passe là-bas. Il s'est à force d'habiter constamment parmi eux, les Chinois, au bout de quelques années. Alberico Crescitelli s'est fait une idée complète de l'état réel de nos missions chinoises. Et d'une main experte et avec une charité paternelle, il cherchait à remédier aux difficultés qu'il avait pu découvrir. Il avait observé combien les chrétiens vivaient restreints en petit nombre dans leur pauvre mission, n'ayant que de grossières et misérables chapelles, entourées d'une nombreuse multitude de païens, c'est-à-dire des confucianistes, quoi, visités par le missionnaire durant quelques jours par an. Quelques jours par an. Et il s'était fait une opinion exacte de combien maigre pouvait être leur instruction religieuse, et combien nombreuses devaient être les occasions qui encourageaient la froideur et l'inobservance du christianisme. Et puis Mgr Antonucci, lui, écrit, il était assidu à la prédication, le père Alberico Crescitelli, et il s'y préparait. Ses pratiques de piété étaient celles d'un prêtre très fervent. Il évitait de se hâter. Il récitait le Fils divin, le bréviaire, là, et ça impressionnait tout le monde. Et il célébrait la messe lentement, faisait sa méditation chaque matin, avant et après la messe, au nord de la rue Sherbrooke, qui est très importante. Si vous avez besoin de renseignements, vous téléphonez au Centre Unitas, 849-2728 à Montréal. 849-2728. Dimanche, donc, le 7 mars, dans deux jours, à 14h30, il y a des frais d'entrée. Ils sont pas énormes. Vous êtes à l'écoute de Rencontres spirituelles, cette émission de Radio Ville-Marie qui est diffusée tous les jours du lundi au vendredi depuis près de 4 ans. Et elle est diffusée en direct à 10h le matin et rediffusée le soir à 10h encore. Aujourd'hui, il est question d'un missionnaire en Chine, un Italien. Le père Caléa, un franciscain, pro-vicaire apostolique, écrit ce qui suit au sujet de ce qui se passe là-bas. Il s'est à force d'habiter constamment parmi eux, les Chinois, au bout de quelques années. Alberico Crescitelli s'est fait une idée complète de l'état réel de nos missions chinoises. Et d'une main experte et avec une charité paternelle, il cherchait à remédier aux difficultés qu'il avait pu découvrir. Il avait observé combien les chrétiens vivaient restreints en petit nombre dans leur pauvre mission, n'ayant que de grossières et misérables chapelles, entourées d'une nombreuse multitude de païens, c'est-à-dire des confucianistes, quoi, visitées par les missionnaires durant quelques jours par an. Quelques jours par an. Et ils s'étaient fait une opinion exacte de combien maigre pouvait être leur instruction religieuse, et combien nombreuses devaient être les occasions qui encourageaient la froideur et l'inobservance du christianisme. Et puis Monseigneur Antonucci, lui, écrit, « Il était assidu à la prédication, le père Alberico Crescitelli, et il s'y préparait. Ses pratiques de piété étaient celles d'un prêtre très fervent. Il évitait de se hâter. Il récitait le Fils divin, le bréviaire, là, et ça impressionnait tout le monde. Et il célébrait la messe lentement, faisait sa méditation chaque matin, avant et après la messe. Il récitait chaque jour le rosaire. Dans ses activités ordinaires de la journée, il était méthodique et ne passait pas des heures à discourir inutilement. Il pratiquait l'examen particulier, c'est-à-dire examiner son âme tous les jours pour voir s'il manque pas des paquets de choses, hein, comme on dit. Il pratiquait l'examen particulier. Au signe de l'Angélus, il interrompait tout entretien. Il cherchait l'intention droite dans toutes les choses. Il pratiquait la confession fréquente. Son zèle était connu. Et Monseigneur Antonucci ajoute, « J'appris de lui, lorsque je faisais mes visites, qu'étant alors en mission dans les montagnes, après l'accomplissement du précepte pascal, il invitait ses chrétiens, le précepte pascal, c'est-à-dire de communier une fois par année, se confesser et communier une fois par année. Donc, après l'accomplissement du précepte pascal par les chrétiens qui sont abandonnés sans prêtre, là, il invitait ses chrétiens à s'approcher une seconde fois des sacrements de la pénitence et de l'Eucharistie. Sa conversation était agréable et utile. Elle concernait ordinairement le ministère sacerdotal, c'est-à-dire, elle avait pour but, sa conversation, la gloire de Dieu du christianisme. Et puis Monseigneur Antonucci, lui, écrit, « Il était assidu à la prédication, le père Alberico Crescitelli, et il s'y préparait. Ses pratiques de piété étaient celles d'un prêtre très fervent. Il évitait de se hâter. Il récitait le Fils divin, le bréviaire, là, et ça impressionnait tout le monde. Et il célébrait la messe lentement, faisait sa méditation chaque matin, avant et après la messe. Il récitait chaque jour le rosaire. Dans ses activités ordinaires de la journée, il était méthodique et ne passait pas des heures à discourir inutilement. Il pratiquait l'examen particulier, c'est-à-dire examiner son âme tous les jours pour voir s'il manque pas des paquets de choses, hein, comme on dit. Il pratiquait l'examen particulier. Au signe de l'Angélus, il interrompait tout entretien. Il cherchait l'intention droite dans toutes les choses. Il pratiquait la confession fréquente. Son zèle était connu, et Monseigneur Antonucci ajoute, « J'appris de lui, lorsque je faisais mes visites, qu'étant alors en mission dans les montagnes, après l'accomplissement du précepte pascal, il invitait ses chrétiens, le précepte pascal, c'est-à-dire de communier une fois par année, se confesser et communier une fois par année. Donc, après l'accomplissement du précepte pascal par les chrétiens qui sont abandonnés sans prêtre, là, il invitait ses chrétiens à s'approcher une seconde fois des sacrements de la pénitence et de l'Eucharistie. Sa conversation était agréable et utile. Elle concernait ordinairement le ministère sacerdotal, c'est-à-dire, elle avait pour but, sa conversation, la gloire de Dieu et le salut des âmes. Alors, en janvier 1900, on approche de sa mort, Crescitelli reçoit une nouvelle assignation, c'est la région de Ningxiang, à l'extrémité limite sud-ouest du vicariat, aux confins du Sichuan. La situation des chrétiens en Chine est alors devenue très critique, malgré les décrets impériaux qui ont garanti leur sécurité, puis là, en octobre 1898, il y a un premier décret qui a ordonné aux autorités de protéger les missionnaires, parce que ça devient dangereux, puis de prendre les mesures nécessaires afin que la population, dans un moment de colère, ne se laisse pas entraîner à des désordres. Hein. Mais l'année suivante, à la suite de l'intervention de la France, un nouveau décret, quelques mois donc après l'autre, reconnaît l'établissement des relations entre la hiérarchie catholique et l'État chinois. Et ces deux documents sont accueillis avec réserve par les milieux missionnaires. À l'intérieur, malgré l'optimisme de l'évêque de Pékin, Mgr Favier. En effet, alors qu'à Pékin, les marins des puissances européennes montent la garde devant les légations, les ambassades, etc., dans les régions, près de 100 000 hommes sont prêts à sévir. Et puis, dans certains cas, les chrétiens ont déjà eu à partir. Il y a eu des églises, des chapelles, puis des établissements chrétiens qui ont été détruits ou incendiés. Il y a des villages chrétiens qui ont été pillés et détruits, des missionnaires et des chrétiens chinois massacrés, alors que d'autres sont tombés aux mains des rebelles et des brigands. C'est pas d'aujourd'hui que le catholicisme est persécuté à travers le monde. Alors tel est le bilan dans les provinces de Sichuan, Hubei, Guangxi, Shantung et Jiangxi. Dans les autres provinces, si des voies de fait n'ont pas été constatées là, il n'en demeure pas moins que les chrétiens sont dans l'expectative. Ils s'attendent, évidemment, que diverses reprises des mesures de précaution et de défense soient adoptées davantage, notamment dans le Shaanxi méridional, où est notre Alberico Crescitelli. Alors que la situation se détériore, c'est la Gazette officielle de Pékin qui publie le décret du 20 septembre 1899, intitulé « Explication du sacré édit ». Il s'agit du commentaire des 16 maximes de la doctrine de l'empereur Kangxi, qui est mort en 1723, et dont la 7e se lit comme suit. Écoutez bien ça, ça ressemble à certains passages de certains livres sacrés d'autres religions. « Annihilez toute secte étrangère, afin que puisse fleurir la doctrine orthodoxe. » On voit ça dans certains pays où les extrémistes de l'islam règnent actuellement. Alors, la doctrine orthodoxe, ben, c'est le confucianisme. Or, le fils de l'empereur Kangxi en a autrefois donné le commentaire suivant de cette parole. Quant à la doctrine de l'Occident qui exalte le Seigneur du ciel aux religions catholiques, elle est contraire à l'orthodoxie de nos livres sacrés de Confucius. C'est seulement parce que ces apôtres connaissent à fond les sciences mathématiques qu'ils viennent à être employés par l'État. Gardez-vous bien d'ignorer ceci, dit-il. Toute fausse doctrine qui trompe le peuple est une chose que la loi n'excuse pas. Et pour punir ces charlatans, l'État a des peines établies. Alors, la publication officielle de ce document laisse bien deviner cette haine croissante à l'égard des étrangers et de ceux qui sont en rapport avec eux. Elle contredit les deux décrets précédents. C'est dans ces circonstances que le vice-roi de la province de Shantung, qui s'appelle Yu Xin, intervient auprès de l'impératrice douairière. L'impératrice, la maman du jeune empereur, pour lui recommander la société des boxers. Oh, qui sont dévoués à la dynastie, eux, les boxers. Cette société est prête à la sauver des abus des étrangers. Et ses offres sont accueillies. Puis les boxers rendent leur projet public dans un manifeste qui paraît au cours de 1900. Les extraits suivants permettent de deviner ce qui va se passer. Écoutez bien ça, c'est terrible. Moi, Li, chef suprême de la Société des boxeurs, pour la justice et la paix, choisi par le ciel comme pacificateur et vengeur pour le salut de la Chine, je fais à tous un appel chaleureux, afin qu'ils chassent l'étranger rendant la paix à nos frontières et la tranquillité au peuple. Est étranger qui? Quiconque. Oui, pour nous, quiconque. Ça n'appartient ni à notre parenté, ni à notre race. Étrangers, donc, deux fois pour nous, ces Occidentaux, qui vivent sous un autre ciel et descendent d'une race différente de la nôtre. La religion sacrée de Confucius n'a jamais éclairé leur esprit. Jamais ils n'ont été civilisés par les lois de notre empire. Gens aimant la nouveauté, inventeurs de choses futiles, ils ont aboli et renié leurs aïeux. Ils ont perdu le souvenir de leur père. Tout d'abord, ils se sont présentés comme des commerçants, puis comme des prédicateurs de religion, et enfin, ils ont prétendu à des indemnités pour mieux susciter des conflits. Or, oublieux des bénéfices reçus de la cour, Fort de l'appui de ministres vendus, ces gens ont réalisé des gains importants. Usant d'imposture et s'appuyant sur l'autorité des mandarins pour mieux opprimer le pauvre peuple chinois. Et ce qui est pire, ils ont renversé nos lois, usurpé nos territoires, profané la sainteté de nos tombes. Ce qui est encore plus abominable, c'est de voir des magistrats payés par l'État protéger ces Occidentaux, embrasser la religion de l'Occident, augmenter ainsi l'insolence des Européens, favorisant leurs desseins impies de détruire la Chine. Il termine en disant « Nous voulons détruire la religion de l'Occident, et seulement alors nous pourrons rappeler nos soldats de nos frontières. Seulement après l'extermination totale des Européens, nous rentrerons triomphants et joyeux dans notre chère patrie. » Il ne va pas de main morte, hein? Alors la vieille impératrice, elle trouve dans la secte des boxers l'instrument qui va lui permettre de se débarrasser de l'influence étrangère sans qu'elle ait à intervenir directement. Alors, dès les premiers mois de 1900, on trouve dans les textes officiels des phrases au sens vague, là, équivoque et provocateur, qui vont encourager la persécution. Alors, ce monsieur Yu Xian, devenu gouverneur de la province du Shaanxi, s'installe dans la capitale de Taïwan Fu, d'où il se met à sévir contre les chrétiens, et c'est à lui que revient la responsabilité du massacre exécuté le 9 juillet 1900. Après un jugement sommaire, 11 jours avant le martyre du père Alberic Crescitelli. Au cours de ce massacre, 26 personnes sont tuées. Il y a Mgr Grassi, puis Mgr Fogolla, 3 prêtres, 7 franciscaines missionnaires de Marie, 14 séminaristes, puis des domestiques. La persécution de 1900 va avoir pour bilan, en fin de compte, 5 évêques, 39 missionnaires européens, 7 prêtres et 5 séminaristes chinois, 7 franciscaines missionnaires de Marie et près de 30 000 chrétiens. Oui, 30 000 chrétiens. Et parmi eux, des membres de la famille du père Thomas Tou, curé à Montréal de la paroisse Saint-Esprit dans le quartier chinois. Telle est la situation qui se prépare en Chine, alors que le père Crescitelli, qui ignore tout des événements, fait route vers son nouveau poste. Alors les événements précurseurs de ces hécatombes sont alors inconnus dans le Shaanxi, au sud du, dans la section sud du Shaanxi. Évidemment, les chrétiens savent qu'il faut s'attendre à des surprises, comme des mesures hostiles, des vexations, des discriminations, mais dans l'ensemble, rien ne laisse prévoir le épouvantable drame qui approche. Mais en traversant ces nouvelles paroisses, le bienheureux Crescitelli découvre, là comme ailleurs, la misère, la maladie. Et la famine, oui, surtout, qui fait des ravages. Dans un village, il apprend que le fonctionnaire chargé de la distribution du grain, imaginez, a refusé de donner leur part aux chrétiens, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Alors le prêtre lui envoie un messager pour demander la cause de cette mesure, et l'homme lui répond: « Dites à votre père, Crescitelli, qu'il a son argent. » Il en a de l'argent. S'il consent à donner 211 onces de son argent européen aux païens, je distribue aux chrétiens les largesses impériales. Cette attitude est connue aussitôt. Mais d'autres villages en font autant et persécutent les chrétiens, puis on commence à dresser les listes des chrétiens afin de les priver du subside. Et Don Crescitelli fait appel à la justice, qui lui donne quand même raison. Mais la démarche augmente évidemment son impopularité auprès des Chinois non chrétiens. Nous allons faire une pause pour écouter maintenant, toujours au luth chinois 4 cordes, cet instrument de 2000 ans, interprété par Liu Fang, « L'amour de la rivière Wai ». Dans la petite ville de Yentsipin, où se trouve une ancienne collectivité chrétienne. Les dignitaires de l'endroit, les notables, profitent de la Semaine Sainte pour se réunir et condamner le christianisme. Ils en font l'annonce dans les rues au son du gong. Du gong, si vous préférez. La proclamation ne condamne pas seulement la religion chrétienne, mais aussi l'Européen qui la diffuse et tout habitant qui refusera de se conformer à leur décision va recevoir la bastonnade. Il sera exclu de la bienfaisance impériale, il sera expulsé des lieux, et ses biens seront confisqués même au bénéfice de la collectivité. Alors cette décision a été prise alors que l'on ignore encore dans le Shensi méridional les édits impériaux. Aussi, lorsque les édits impériaux, qui sont très durs, sont connus, l'hostilité n'a plus de bornes, c'est le déchaînement. Là, le 20 juillet au matin, le bienheureux Christitelli, qui se trouve dans un village voisin de Yensipien, reçoit un message d'un prêtre des missions étrangères de Paris établi dans le Sichuan. Il lui annonce le contenu des récents édits. Il lui suggère de se réfugier dans une ville où il pourrait bénéficier de la protection des autorités. Et après quelques hésitations, sur l'instance des chrétiens, le bienheureux Alberico Crescitelli quitte le village dans l'après-midi du même jour pour se rendre au centre important le plus proche, qui est situé à 19 kilomètres. C'est une bonne distance, alors. Il est alors 4 heures de l'après-midi. Mais sa route passe par Yensipien, où les habitants ont décidé de le tuer. Ils sont devenus archi-fanatiques. Alors, il y a à l'entrée de Yensipien, sur le bord du fleuve, un poste de douane pour contrôler les marchandises portées par les barques. Et comme le soir approche, le douanier, Zhao, conseille à Crescitelli de ne pas continuer son chemin. Des centaines d'apostats, c'est-à-dire des Chinois catholiques qui ont renié leur foi au Christ et à Dieu, des centaines d'apostats dispersés dans le pays ne tarderont pas à le tuer, dit-il. Attention, mieux vaut attendre le matin. Et sur les instances du douanier, qu'il croit, qui lui offre asile dans le bureau de la douane, eh bien, le bienheureux Crescitelli accepte, et vers 10 ou 11 heures, il est réveillé par des hommes qui viennent frapper à la porte. Et là, l'hypocrite simule l'affolement, ce douanier. Et puis, ce douanier, Joa, dit à Crescitelli, « Regarde combien de monde s'est assemblé. Ils sont contre toi. Il m'est impossible de te protéger contre tant de gens. Si tu peux réussir, l'unique voie de secours est par la porte arrière. Tu pourras fuir dans la montagne, mais inutile, la maison est cernée et tirée du bureau de la douane. Le bienheureux Crescitelli est traîné jusqu'au milieu de la ville où la foule s'est amassée et près d'un millier de personnes. Et là, il est tailladé, brûlé à petit feu, affreusement torturé, mais pas assez pour perdre connaissance. Et ça dure plusieurs heures. C'est un martyr sadique, inhumain, tragique. » Alors que se déroule le drame, la nouvelle parvient au village voisin vers minuit, puis il faut sauver le missionnaire. Alors le chef du village envoie d'urgence une 20aine de soldats avec un officier qui arrive à Yensipien au lever du soleil. La confusion règne dans la ville. Aussi l'officier préfère-t-il se présenter accompagné d'un seul soldat. Mais après de longues discussions, il finit par extorquer des tortionnaires la promesse qu'on va lui remettre le père Crescitelli. Il se dirige alors vers le bureau de la douane pour prendre ses dispositions pour le transport du pauvre prêtre. À peine s'est-il éloigné que les malheureux traînent le corps déchiqueté du missionnaire, qui n'a pas encore perdu conscience, imaginez. Ils le traînent vers une croisée de chemin au bord du fleuve, et là, il lui scie le cou avec une lame destinée à couper la paille des bestiaux. Le corps est ensuite dépecé et jeté dans le fleuve, tandis que la foule déchaînée tue 11 chrétiens catéchumènes. C'est arrivé le 21 juillet 1900. Le bienheureux Crescitelli avait seulement 37 ans. En mars 1910, donc 10 ans plus tard, la congrégation des rites au Vatican donne au vicaire apostolique du Shensi méridional l'autorité pour constituer le tribunal en vue du procès de la cause pour béatifier, canoniser Alberico Crescitelli. Et par suite des événements politiques chinois, l'enquête ne peut commencer qu'en 1918. Il y a eu la guerre. Ça se termine en 1921 après plusieurs interruptions. C'est très long. En 1927, le pape Pie XI constitue la commission pour l'introduction de la cause, mais Encore de nouveaux retards qui surviennent par suite de l'insécurité de la Chine, infestée de brigands. L'enquête apostolique en Chine ne se termine qu'en 1937. Là, finalement, le 5 mars 1950, est signé le décret sur le martyr. Puis le 3 décembre, le décret de béatification, mais la cérémonie a lieu finalement le 18 février 1951. Le bienheureux Alberico Crescitelli est devenu un modèle à suivre, un modèle d'intelligence, de foi, d'amour et de courage. Sa vie a été écrite en italien par plusieurs auteurs. C'est un martyr qui s'est donné à la Chine, aux Chinois. Et l'Église chinoise est toujours martyr. Il faudrait qu'on l'on prie du fond de notre cœur pour tous nos frères catholiques chinois, sans, sont très, très, très nombreux, qui souffrent amèrement. Oh, on pense qu'ils sont passés à une église séparée de Rome, mais leur cœur est resté attaché à la grande Église catholique et au pape. Je le sais de source sûre.